Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Bourumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Très chers amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce mercredi 15 septembre 2021. J'ai le plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Les présidents iraniens et russes se sont entretenus au téléphone. Deux officiers de l'armée irakienne et un civil ont été tués dans des attaques perpétrées par Daesh dans les provinces de Diyala et Saladin. Et l'opération « Ville morte » de 48 heures contre les violences à Beni dans le nord-est de la RDC est en cours. C'était les principaux titres. En voici le journal. Les présidents russes et iraniens se sont entretenus au téléphone ce mardi 14 septembre. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a fait part dans un rapport d'une conversation téléphonique ce mardi entre les présidents iraniens et russes, Ebrahim Raisi et Vladimir Poutine. Les deux hommes se sont penchés à cette occasion sur la crise sanitaire liée au Covid et l'accord nucléaire de 2015 signé entre l'Iran et les grandes puissances. Le porte-parole du Kremlin a aussi déclaré qu'en ce qui concerne la participation du président de la République islamique d'Iran en qualité d'observateur au sommet de l'OCS, Organisation de coopération de Shanghai, qui se tiendra le vendredi 17 septembre à Douchanbé, la capitale du Tadjikistan, des questions dans le cadre de cette organisation avaient été également discutées par les deux présidents. Nous poursuivrons le développement et l'approfondissement de la coopération irano-russe dans toutes les dimensions, a déclaré le président iranien Ebrahim Raisi. M. Raisi a également souligné la nécessité d'une coopération continue entre les deux pays dans la lutte contre le Covid, y compris dans le domaine de la production conjointe de vaccins, a insisté le président iranien. Le porte-parole du Kremlin avait précédemment déclaré que les réunions bilatérales que Poutine devait tenir au Tadjikistan, y compris avec le président iranien, avaient été reportées. Le bureau de presse du Kremlin a déclaré mardi dans un rapport que Vladimir Poutine devrait se mettre à l'isolement et suivre les principes de la quarantaine. Les rencontres de Poutine, qui participera aux sommets régionaux en ligne, seront maintenues par vidéoconférence. Deux officiers de l'armée irakienne et un civil ont été tués mardi 14 septembre dans des attaques perpétrées par des terroristes Daesh dans les provinces de Diyala et Salahuddin, ont indiqué des sources de sécurité. Dans la province orientale de Diyala, le lieutenant-colonel Jassim Al-Shimari, commandant d'un bataillon de l'armée, a été tué lorsqu'une bombe passée au bord de la route par des daïchistes a explosé près de son véhicule militaire à l'extérieur de la ville de Djalava, a expliqué le commandant Ala Al-Saadi de la police provinciale. Par ailleurs, les daïchistes ont ouvert le feu sur un camion civil et tué son conducteur à l'extérieur de la ville de Vajihia, près de la capitale provinciale, Baruba, à environ 65 km au nord-est de Bagdad, a déclaré M. Al-Assadi. Toujours dans la province, les forces de sécurité ont repoussé deux attaques de Daesh contre des positions militaires dans deux villages situés à environ 40 km au nord-est de Baruba, a indiqué le commandant Alaa Al-Assadi. Les terroristes ont fui les lieux et aucun mort n'a été signalé dans ces attaques. Dans la province de Saladin, au nord de Bagdad, un officier de l'armée irakienne a été tué par des Daeshistes qui ont fait irruption dans sa maison et ont ouvert le feu sur lui dans un village au sud de la capitale provinciale Tikrit, a annoncé le colonel Mohammad Al-Bazi. Au cours des derniers mois, les terroristes de Daesh ont intensifié leurs attaques contre les forces de sécurité irakiennes dans les provinces qu'ils contrôlaient auparavant, faisant des dizaines de morts et de blessés. Une vingtaine de jours après l'incendie qui s'était déclaré près de l'aéroport de Dubaï, un autre grand incendie a éclaté dans la zone industrielle d'Umm Al-Toub, au nord des Émirats arabes unis. Selon des sources émiraties, l'incendie s'est déclaré ce mardi 14 septembre à Umm Al-Raywan, près de la côte nord des Émirats. Le quotidien émirati d'Al-Bayan réaffirme que l'incendie s'était produit dans la zone industrielle d'Umm Al-Toub, plus précisément dans un atelier pneumatique. Des équipes de secours ont été acheminées sur place et les pompiers essayent de maîtriser les flammes. Les sources émiraties n'ont pas encore publié les détails de cet incident ou le bilan des victimes. Il y a presque trois mois, une explosion de puissante intensité a eu lieu sur le port de Jebel Ali à Dubaï. Il s'est avéré que l'explosion a eu lieu à bord d'un navire israélien qui a été attaqué par l'armée iranienne avec un missile de croisière. L'explosion s'est avérée si puissante qu'elle pouvait être vue à une distance de plusieurs dizaines de kilomètres. Selon diverses sources, des armes et du pétrole pourraient être trouvées à bord du navire israélien et à en juger par les premières séquences vidéo de la scène, le navire a été complètement détruit et l'infrastructure du port a été gravement endommagé. L'opération Ville morte de 48 heures à Beni contre les violences dans le nord-est de la RDC est en cours. Beni, une ville dans le nord-est de la République démocratique du Congo, est paralysée dans le cadre de l'opération Ville morte de 48 heures depuis lundi 13 septembre, déclarée par la société civile locale, selon laquelle le peuple en a marre de violences menées par les groupes armés depuis des décennies. Écoles fermées, marchés en désert. Les activités socio-économiques sont paralysées depuis lundi à Beni, une ville ensanglantée par les atrocités attribuées aux rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF. Cette situation fait suite à un appel de la société civile qui a réclamé deux jours sans activité pour demander aux autorités de chercher des solutions aux problèmes de sécurité dans la région. Environ deux mois plus tôt, la ville a également été fermée pendant 48 heures à la suite d'un double attentat à la bombe faisant un mort et de multiples blessés fin juin. Les habitants semblent être en faveur de cette décision de la société civile, même s'ils ont dû perdre leurs revenus de deux jours. Depuis le début de cette année, les membres des ADF ont intensifié leurs attaques dans les provinces du Nord Kivu et d'Ituri. Face à l'insécurité croissante dans la région, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a déclaré l'état de siège dans les deux provinces en fin avril. Une décision permettant au gouvernement de la RDC d'y placer l'armée et la police à la des administrations politiques. Le Bureau des Nations Unies de la coordination des affaires humanitaires, OCHA, a exprimé récemment ses préoccupations quant à la détérioration de la situation à Beni. Dans les deux premières semaines du mois d'août, au moins 27 civils ont été tués dans cette zone, où 37 autres civils ont été déjà tués en juillet, a indiqué le CHA, ajoutant que plus de 610 000 personnes avaient été déplacées dans le territoire de Beni. Le Cameroun et la Banque mondiale discutent du renforcement de la coopération dans le domaine énergétique. Le premier ministre camerounais Joseph Diangouté et le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale Ousmane Diagana ont eu mardi des discussions sur la manière d'exploiter les potentiels énergétiques pour stimuler le développement et l'économie du Cameroun, qui a été durement touché par la pandémie de COVID-19. La Banque mondiale cherche à jouer un rôle plus important dans les projets d'énergie durable dans le monde et le Cameroun a ce qu'il faut pour de tels projets, a déclaré à la presse M. Diagana, après avoir rencontré le Premier ministre dans la capitale camerounaise, Yaoundé. L'énergie peut transformer l'agriculture, augmenter l'accès à l'éducation et améliorer réellement le fonctionnement des systèmes de santé, a-t-il dit. Le Cameroun est un pays avec d'énormes potentiels dans le secteur de l'énergie et la Banque mondiale s'engage à travailler avec le gouvernement pour faire en sorte que le Cameroun puisse avoir un accès facile à l'énergie pour une meilleure transformation de l'économie du pays, a souligné M. Diagana. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Annonce choc de Poutine à Assad. À quoi rime cette visite à l'improviste du président syrien au Kremlin qui a royalement surpris les analystes? Une visite où le président russe a tenu d'abord à féliciter son homologue syrien pour son anniversaire, signe que les liens mutuels Assad-Poutine sont plus que protocolaires, puis à lui présenter ses vœux, cette fois à l'occasion de sa réélection, qui témoigne de la confiance renouvelée des Syriens envers leur président, et enfin à dénoncer ces terroristes et ces forces étrangères qui occupent sans mandat de l'ONU ni le feu vert de Damas les parties entières de la Syrie, et qu'elles empêchent de la sorte la mise sur rails de la reconstruction du pays. Un premier niveau d'analyse se concentrerait évidemment sur ce qui risque de se dérouler en Syrie post-reprise de Dera, cette province stratégique que les accords de 2018 Russie-Israël-USA avaient rendu plus ou moins sûre pour les agents syriens d'Israël avant que la Russie de 2021 en retire son soutien, et ce, en soutien évidemment à l'armée syrienne, mais aussi et surtout à la résistance, avec qui Moscou commence réellement à envisager une alliance. Et n'oublions pas surtout la récente visite du ministre israélien des Affaires étrangères à Moscou et son point de presse très particulier avec Lavrov, où il s'était emporté par un coup de colère quand un journaliste russe lui avait posé la question suivante. Allez-vous négocier avec Assad la restitution du Golan? Le journal israélien Jérusalem Post écrivait il y a 3 jours « Au fait, la Russie n'a jamais cessé de jouer sur le terrain de l'axe iranien. Au Golan, elle nous a roulés dans la farine quand elle a promis à Israël de maintenir à une distance de 80 km des frontières israéliennes le Hezbollah. » Un Hezbollah que nous avons vu émerger peu après sous notre nez et notre barbe, déguisé en soldat syrien. Un Hezbollah qui en est désormais à étendre au Golan syrien ses bases balistiques, ses dispositifs de guerre électronique contre le ciel israélien, voire nos colonies. Et aujourd'hui, cette même Russie nous fait le même coup à Dera, cette autre province longeant le Golan, d'où son pseudo cessez-le-feu est sur le point de mettre à la porte nos alliés parmi les trus syriens. Le journal énumérait aussi au nombre des péchés du Kremlin son feu vert au déploiement des radars iraniens dans l'est de la Syrie. Radars capables même de verrouiller sur nos avions furtifs ou encore de ces dispositifs iraniens de guerre électronique qui ont privé Israël de pouvoir faire ses attaques aux drones contre les installations énergétiques syriennes à Homs ou ailleurs, comme pour prévenir tout ce trafic énergétique qui se forme entre l'Iran, la Libye, la Jordanie et l'Égypte, et ce, sur le dos d'Israël. C'est le coup le plus fatal contre les capacités aériennes d'Israël en Syrie, car, outre une DSA renforcée qui intercepte en vrac nos missiles air-sol, l'apparition des dispositifs de guerre électronique iraniens prive Israël de pouvoir mener sa guerre aérienne à coups de drones. Évidemment, cette litanie du Jérusalem Post sur les actes de traîtrise russe à l'endroit d'Israël pourrait avoir son pendant turc. Surtout que le président russe a implicitement fait allusion à la Turquie, une des deux puissances étrangères présentes sans mandat syrien dans le nord de la Syrie. Il est vrai qu'après Deraa, la Syrie pense naturellement à se faire restituer Idlib, où le sultan, en dépit des années d'occupation, commence à émettre les signes d'essoufflement. Il est loin le temps où la Russie tolérait les agissements de l'armée turque à Idlib, et les frappes russes vont croissant de façon exponentielle. Selon Aviapro, au cours des deux dernières semaines, des chasseurs et des bombardiers russes ont lancé des attaques massives contre des positions terroristes dans les provinces syriennes d'Idlib et de Latakia. Dans le même temps, plusieurs sources rapportent que la Russie et la Syrie se préparent dans un futur proche à lancer une offensive sur la partie sud d'Idlib afin de reprendre le contrôle du territoire. Il est à noter qu'un grand nombre d'attaques des forces aérospatiales russes sont livrées en hauteur, ce qui devrait simplifier l'offensive de l'armée syrienne. Eh bien, cette remarque cadre parfaitement avec les propos du président Poutine qui a affirmé il y a quelques heures à son hôte Assad que 90% de la Syrie est sous le contrôle de l'État. Mais la reconstruction ne peut réellement commencer sans les 10% restants. La Russie s'apprête-t-elle à appuyer la Syrie pour qu'elle nettoie aux côtés de ses alliés de la résistance Idlib? Visiblement. Mais il y a encore plus. Al-Mayadine évoque dans un récent rapport un contact téléphonique USA-Russie, presque simultanément avec la visite d'Assad au Kremlin. Le rapport parle des coordinations russo-américaines en Syrie. Dans le temps, ce mot « coordination » renvoyait à toutes sortes d'hypothèses, y compris les pires qui laissaient entendre que Moscou aurait contourné l'État syrien et sa volonté. La trêve de 2018 à Deraa en est une. Mais c'était avant que l'axe de la résistance mette échec et mat des États-Unis et qu'en acheminant du pétrole en Méditerranée brise en mille morceaux la loi César et qu'il oblige les États-Unis à aller frapper à la porte Assad pour qu'il autorise le transit du gaz égyptien au Liban. Remarquons que ce transit a son prix à payer et que ce pourrait ne pas être que le désengagement US en Syrie. Le coup de fil échangé entre Poutine et Biden pourrait bien avoir transmis ce message à l'Américain. On en saura davantage dans les jours qui viennent, surtout qu'une information faussement démentie par le Pentagone faisait déjà état d'un retrait américain d'Al-Omar. Le Jérusalem Post avait raison. Il se pourrait que la Syrie soit le second pays où les Américains y lâcheraient prise.
Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce vendredi 10 septembre 2021. Le corps des gardiens de la révolution islamique a mené, jeudi dans la matinée, des frappes aériennes contre les positions des groupes terroristes dans le nord de l'Irak. Dans un communiqué, le CGRI a annoncé que les forces du corps des gardiens de la révolution islamique avait mené une attaque coordonnée de drones, de missiles et d'artillerie contre les positions des groupes terroristes dans la région du Kurdistan irakien. Selon ce communiqué, cette attaque est intervenue en riposte au déploiement des équipes terroristes qui cherchaient à déstabiliser en effet les frontières de la République islamique d'Iran. cette attaque est intervenue 2 jours après que le commandant-chef de la force terrestre du corps des gardiens de la révolution islamique avait en effet mis en garde contre la présence de ces groupes dans la région du Kurdistan irakien. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cette riposte du CGRI, son message et bien entendu les conséquences en effet de ces frappes de haute précision contre les positions des groupes terroristes dans la région du Kurdistan irakien. On va y rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
À peine 48 heures après la mise en garde du commandant en chef de la force terrestre du CGRI, le général de brigade Pokpur, une base des terroristes séparatistes kurdes, a été ciblée dans les hauteurs du nord de l'Irak. Il s'agit d'une offensive particulièrement violente impliquant à la fois des unités de drones et l'artillerie lourde du CGRI et qui a débuté vers 6 heures locales ce jeudi matin. Selon cette information, les chasseurs, les drones et les unités d'artillerie du CGRI ont bombardé pendant plusieurs heures les localités de Sitkan, de Chuman et de Haji Omran, où a été visée plus particulièrement une base d'entraînement des terroristes séparatistes de Etka. C'est à partir de cette base, située dans la ville de Jalala, que ces derniers projetaient de lancer d'ici les jours à venir des attaques contre le territoire iranien. Jalala se trouve effectivement à quelques kilomètres de Harir, la super base US à Erbil. Dans un communiqué publié, le CGRI affirme « Les unités balistiques de la force aérospatiale ainsi que les unités de drones du CGRI ont ciblé ce jeudi à partir de 6 heures du matin heure locale la base d'entraînement des terroristes au nord de l'Irak alors que le chef tenait une réunion de guerre. » Cette puissance offensive, balistique contre les terroristes séparatistes qui agissent en lien direct avec les services secrets étrangers, vient d'avoir lieu, alors même que parallèlement deux autres opérations ont été signalées. Une, en Irak, est menée par les unités de Hajd al-Shaabi, visant à sécuriser la localité d'Al-Tarmemiyah au nord de la capitale Bagdad, où 4 entrepôts d'armes appartenant aux agents daéchistes des États-Unis ont été découverts, Al-Tarmemiyah qui a été le théâtre d'il y a quelques jours d'une violente opération terroriste visant le QG des forces de sécurité irakiennes et faisant au moins 13 morts dans les rangs de ces derniers. Autre opération qui pourrait ne pas être sans rapport avec la frappe balistique 9 septembre du CGRI, une attaque anti-US dans le nord-est de la Syrie, plus précisément à Asakeh. Selon l'OSDH, 2 missiles ont été tirés ce jeudi vers midi contre la base US de Shadadeh au sud de Asakeh, base qui abrite les forces américaines et qui leur sert de lieu de transit des terroristes de Daesh à bord des hélicoptères de la Syrie vers l'Irak. Cette opération sur quoi le Pentagone se tait pour le moment intervient alors même qu'en juillet et en août, les bases américaines sur la rive est de l'Euphrate, Conoco et Al-Omar ont été pris pour cible de roquettes et de drones de la résistance. Certaines informations ont même fait état du retrait des forces US ces derniers jours de 3 de leurs bases à Deir ez-Zor et à Ramishli, dont le fameux Al-Omar. L'axe de la résistance avec en son cœur l'Iran est-il passé à un mode opératoire plus direct contre les États-Unis et leurs agents?
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Toulouse M. le professeur Pierre d'Ortiguier, philosophe et politologue français, et depuis Damas, Maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique. Maître Develet, bonjour et merci infiniment d'être en ligne avec nous.
Oui, merci à vous. Bonjour aux téléspectateurs et mes salutations au professeur d'Ortiguier.
Maître Develet, on s'y attendait en effet depuis quelques jours, depuis cet avertissement du commandant en chef de la force terrestre du CGRI, cette attaque contre le QG et la base des terroristes dans le nord de l'Irak. Et justement, l'événement a eu lieu jeudi dans la matinée. Les unités de drones et les unités, en effet, de la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique ont frappé la base d'entraînement des terroristes dans le Kurdistan irakien. Une première question, au moment où justement des informations faisaient état des tentatives de ces groupes de déstabiliser les frontières de l'Iran, les provinces occidentales de l'Iran, quel est le message de ces attaques coordonnées, Maître Develay?
Ben écoutez, le message est sans appel. C'est un message dissuasif avant tout et une mise en garde sévère contre toute tentative par les services étrangers dont on sait qu'ils opèrent d'une base à Erbil, d'instrumentaliser des groupes, que ce soit des groupes séparatistes ou des groupes ouvertement terroristes, quant à l'instrumentalisation de ces derniers dans ce qui semblerait être ce que le Premier ministre sioniste Bennett a qualifié d'opération la mort par 1000 blessures, 1000 coupures, je devrais dire, suite à sa rencontre avec le président Biden, où après avoir payé, si je puis dire, des compliments et des encouragements de façade quant à la résomption des négociations sur le dossier nucléaire, s'est empressé de déclarer que le plan B, si je puis dire, était déjà sur la table. Et cela passe par une opération visant à déstabiliser la République islamique d'Iran par tous les moyens et sur tous les fronts.
Merci infiniment, Maître Develay, rester avec nous. On va tout de suite rejoindre à Toulouse, Monsieur le professeur Pierre Dortillier, philosophe et politologue français. Monsieur le professeur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Monsieur Codemandé, bonjour à tous les auditeurs et à Maître Develay.
Maître Develay l'a rappelé, Monsieur le professeur Dortillier, là il s'agit d'une mise en garde sévère, d'un avertissement, d'un message sans appel, d'une part contre la présence bien sûr de ces groupes terroristes dans le nord de l'Irak, d'autre part contre l'instrumentalisation de ces groupes par le tandem américano-israélien. Alors d'abord, dans quel objectif opéraient en effet ces groupes dans le nord de l'Irak? Et puis, cette opération du CGRI, justement, dans quelle mesure cette opération, en effet, aurait un rôle dissuasif contre ces agents stipendiés, justement, à leur maître et contre les services secrets étrangers qui opèrent, on le sait, depuis longtemps, en effet, notamment dans le Kurdistan irakien.
En effet, particulièrement dans le Kurdistan irakien, les organisations étrangères mettent au point, bien sûr, d'une série d'offensives. Et je crois que contre l'Iran, et il est certain que elles conduisent jusqu'à la mort, bien sûr, c'est leurs mercenaires. Tout semble bien sûr avéré, disons vérifié, que ce groupe était destiné à passer à l'action dans une opération certainement foudroyante, mais qui aurait, disons, eu pour résultat psychologique, en tout cas, plus que militaire, mais surtout psychologique, de montrer, disons, une faiblesse de l'Iran, de dire que si on pouvait attaquer ainsi un pays de l'extérieur, il était possible également de se livrer à des opérations proprement intérieures, voyez-vous. Il s'agissait là d'étapes, à mon sens, de la part des services étrangers, frapper de l'extérieur pour ensuite essayer de pénétrer à l'intérieur. Je veux dire à l'intérieur du pays. C'est une option des opérations de subversion, bien sûr. Et disons que la riposte, me semble, de la part de l'Iran, me semble bien sûr légitime. Elle me semble en même temps assez audacieuse, puisqu'elle était, c'est une réaction en profondeur. Ce n'est pas simplement, d'abord c'est une le temps de l'offensive a été choisi avant même que ces groupes ne passent à l'action. Je crois que c'est là une très grande, disons, sagesse, point de vue stratégique. Et en même temps, disons que la crainte, disons, change de camp. Disons, l'offensive change de camp. Cela a comme vous vous l'avez exposé, que Maître Debré a exposé, une grande influence également sur le terrain syrien. Et je crois que tout ceci, bien sûr, forme un corps. Je ne veux pas faire une allusion qui n'a rien de polémique, croyez-moi, mais à la présence de notre président, par exemple, à Erbil. Bon, je pense qu'il s'agissait là simplement de contact avec les autorités kurdes locales. Mais chacun sait quand même que, malheureusement, pour son histoire, le peuple kurde a été, que ce soit de la part de l'Union soviétique, il faut bien le dire, maintenant de la part des soeurs américains et soviétiques, sionistes, utilisés, pour des desseins de défense générale de l'impérialisme. Et il est, je pense, utile que le peuple kurde lui-même, partout où il est, prenne conscience de jusqu'en Turquie, prenne conscience justement de ce jeu dans lequel il est enfermé et cesse, y compris surtout en Syrie, de jouer un rôle qui est tout à fait à l'encontre de son destin. Je dois dire que la pénétration de ces milieux est très ancienne, je le redis, elle était à l'époque de Staline et autres, et c'est une véritable guerre. Je dois dire qu'en lisant le Times, je terminerai dessus, en lisant une fois le Times of Israel, j'ai vu qu'une femme d'un parti, une politicienne d'un parti qu'on dit extrémiste de droite, ainsi qualifiée bien sûr, fondé de grands espoirs justement sur ce terrorisme, en utilisant le peuple kurde. Et donc il s'agit là véritablement d'une guerre qui est ouverte, véritablement ouverte, qui est déclarée, Et que c'est là ce qui nous réconforte, nous-mêmes ici en Occident, c'est de voir que l'Iran puisse, prendre les devants, vous voyez, et, intimider ses propres adversaires. C'est cela, à mon avis, qui nous fera du bien aussi beaucoup, car ce terrorisme dont on parle, surtout depuis l'arrivée des transformations en Afghanistan, ne manquera pas d'être utilisé comme une arme de terreur ici, voyez-vous. Je veux dire, ce terrorisme sera utilisé comme une arme politique, voyez-vous, ici même. Et donc, je dirais en deux mots que la riposte de l'Iran a clarifié les choses.
Merci pour ces éclairages, monsieur le professeur Dortier, restez avec nous. Maître Develay, la riposte du CGRI, vous l'avez rappelé tout à l'heure, a eu lieu non loin de la base américaine de Hadir, dans la région du Kurdistan irakien, et simultanément à cette riposte, à cette opération du corps des gardiens de la révolution islamique, alors une autre opération menée par les Hashd al-Shaabi en Irak, et surtout alors une opération contre la base américaine, une base américaine dans la province syrienne de Hasakeh. Donc là, on assiste, selon de nombreux analystes, à une stratégie offensive synchronique contre les États-Unis, contre le tandem américano-israélien et ces mercenaires. Est-ce que on entre, comme disait M. Dortiguier, dans une guerre désormais ouverte, dans une nouvelle phase de confrontation directe et ouverte contre les États-Unis dans la région?
Bah écoutez, oui et non. Je pense que cette configuration est en place depuis un certain temps maintenant. Quelque part, les tentatives de frappe aérienne sioniste contre ce que eux considèrent comme étant des milices pro-iraniennes en Syrie participent de cette guerre asymétrique où effectivement, pour une action ponctuelle menée sur un site en particulier, la riposte ne se fait pas attendre par le biais effectivement d'une attaque au drone ou d'une attaque balistique ou d'une attaque sur les convois de ravitaillement américains dans d'autres régions. Tout ça participe de cette espèce de guerre dans la guerre, si je puis dire. Et les services de renseignement sont bien sûr hautement importants puisque c'est dans ce contexte précis que le renseignement militaire de la République islamique d'Iran a permis cette frappe préemptive, qui est alors complètement justifiée en droit international, hein, parce qu'elle a été proportionnée, elle a rempli les objectifs, mais cela laisse entendre aussi au niveau politique, si vous voulez, que l'Irak a quelque part toléré une partie entière de son territoire, à savoir le Kurdistan irakien, pour que ce dernier soit développé et utilisé comme une base au travers de laquelle les services étrangers s'affairent à déstabiliser toute la région. Aujourd'hui, en tout cas hier, c'était les forces du Bijak, mais ça pourrait très bien être des éléments daéchiens la prochaine fois, ça pourrait être aussi des éléments du mouvement, soi-disant le Moudjahidine du peuple. Tous ces éléments, tous ces outils sembleraient avoir une certaine liberté de manœuvre et de circulation qui semble être tacitement tolérée par Erbil. Et donc, c'est dans ce contexte-là où on peut se demander s'il ne faudrait peut-être pas, de la part de Bagdad, attirer l'attention sur cette anomalie, parce que quelque part, Bagdad n'a aucun intérêt politique à laisser pourrir une situation comme celle-ci. Et à un moment donné, je pense que le dossier devra être mis sur la table et géré avec une certaine vigueur, parce que on ne peut pas tolérer que la base du Kurdistan, en tant que telle, puisque c'en est une, serve de source de déstabilisation, empêchant tout processus politique de pouvoir arriver à une résolution qui satisfasse toutes les parties dans la région.
Merci encore, Maître Develay. Monsieur d'Ortigue, donc, avec le retrait américain d'Afghanistan, là, bien sûr, selon de nombreux analystes, désormais la priorité de l'administration Biden serait en effet la Chine, la Russie, mais cela ne veut pas dire que là, les Américains et les Israéliens resteraient bras croisés, justement dans la région du Moyen-Orient, en Asie occidentale, notamment en Irak, en Syrie. Alors, avec ces nouvelles évolutions, justement, à quel scénario pourrait-on s'attendre, notamment en Irak et en Syrie, et au vu, justement, à cette riposte préventive et dissuasive de la République islamique d'Iran contre les groupes terroristes dans la région du Kurdistan irakien, où, comme disait Maître Develay, règne malheureusement alors une anomalie.
Oui, en effet, Maître Develay, je reprends ce que tu as dit. Je me permets de le reprendre pour le souligner, puis une importance. Il a parlé d'une tolérance, en effet, du gouvernement ou d'une certaine administration irakienne envers justement ces groupes-là, et un manque de fermeté, disons, au minimum, dans leur rapport avec les usages, disons, que doivent faire des bases américaines. Ceci est vrai, ceci est tout à fait vrai, et nous craignons, bien sûr, aussi, qu'il y ait certaines, disons, complicités, disons, de fait, non pas de droit, mais de fait, entre certains éléments irakiens et, disons, ce qu'on pourrait appeler les soutiens des terroristes. Voir les choses de plus haut, je pense que on devrait s'attendre, en répondant ainsi à votre question, à une audace plus importante, plus grande des sionistes et des Américains, surtout du mouvement sioniste aujourd'hui. Je pense que c'est lui qui tire les Américains, comme toujours, et que justement, la riposte iranienne a montré que les plans étaient, disons, de la part de ces groupes-là, des groupes kurdes et assimilés, les plans étaient particulièrement, précis, audacieux, etc., déterminés. Et donc, cela montre qu'il y a, disons, un pas politique qui a été franchi de la part de ces groupes terroristes, de ces groupes politiques, disons. Je reprends le terme de politique américano-sioniste. Et je pense que cela est le fruit d'une décision, d'une concertation à un très haut niveau. Et donc, cela entraînera en particulier sur le territoire syrien, disons, des interventions, disons, plus importantes pour déstabiliser, disons, le gouvernement et, disons, terroriser le peuple syrien. Je crois que, de ce point de vue, on doit s'attendre à plus d'audace, plus de détermination de la part de ces groupes qu'on appelle américano-sionistes, et qui sont effectivement ceux de la politique sioniste elle-même, qui me semble être beaucoup plus, en tout cas je soupçonne cela, beaucoup plus audacieux voyez-vous, que l'administration précédente, et ce n'est pas peu dire.
Merci encore. Une toute dernière question à Maître de Velay. Maître de Velay, quelle sera la prochaine phase de l'instrumentalisation, si on peut dire, de ces groupes terroristes par les services secrets américains ou israéliens contre la République islamique d'Iran, contre dans la région, au niveau régional, sur le plan régional, contre justement l'indépendance et la souveraineté de l'Irak, mais aussi de la Syrie?
Bien, malheureusement, je pense qu'on doit s'attendre à une intensification de ces opérations. Mm-hmm. N'oublions pas que sur la durée, quelles que soient les administrations américaines, le lobby qui n'existe pas, si je puis dire, obtient toujours gain de cause dans ce qui concerne la politique américaine sous-loyée dans la région. Et dans ce contexte-là, on peut aussi évoquer les meetings organisés en banlieue parisienne par les Moudjahidines du peuple sous l'œil bienveillant du pouvoir français, mais aussi la participation à ces meetings de membres des anciennes administrations américaines tels que John Bolton, Rudy Giuliani, des gens associés, il faut être précis, à la mouvance néoconservatrice qui visiblement se retrouve à changer, si vous voulez, d'un parti à un autre, sans que cela n'entache leur volonté d'avancer, si je puis dire, leur désir de déstabiliser la région dans un contexte où tout État fort doit être amoindri, attaqué dans ses fondements mêmes, afin de permettre une certaine politique hégémonique. C'est ça l'objectif, in fine. Donc, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Je ne pense pas, à cet égard, que nous allons assister à une déviation ou à un quelconque changement. Il faudra s'inscrire dans une approche réaliste, qui soit apte à réagir et anticiper, surtout, toute tentative de déstabilisation. Donc c'est, comme je le disais, plutôt une guerre dans la guerre, où sur la durée, ces politiques seront amenées à démontrer qu'elles n'ont aucune chance de succès, et avec le temps, en espérant que les responsables des pays derrière ces opérations soient amenés à être réalistes et à changer leur attitude. C'est malheureusement la seule chose qu'on peut espérer à l'avenir.
Maître Arnaud de Velay, juriste international, analyste politique depuis Damas. Monsieur le professeur Pierre Dortillier, philosophe et politologue depuis Toulouse. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.
La guerre mondiale au terrorisme. Deux informations publiées ces jours-ci par le Washington Post. Les familles du 11 septembre disent que Biden n'est pas le bienvenu aux événements commémoratifs à moins qu'il ne fournisse les preuves détenues par le gouvernement. Et Biden signe un ordre exécutif qui réclame la révision, la déclassification et l'ouverture de documents classifiés du 11 septembre, ouvre de nouvelles profondes brèches dans la version officielle. Le fait que, à 20 années de distance, il y ait dans les armoires de Washington des documents secrets sur le 11 septembre signifie que sa réelle dynamique est encore à examiner. Clair est par contre le processus que le 11 septembre a mis en marche. Dans la décennie précédente, l'empire du mal soviétique étant venu à manquer, la stratégie USA s'était concentrée sur les menaces régionales, conduisant les deux premières guerres de l'après-guerre froide, celle du Golfe Persique et celle contre la Yougoslavie. Leur objectif, renforcer la présence militaire et l'influence politique américaine dans l'aire stratégique du Golfe Persique et dans la région européenne, au moment où leur base était en train d'être retracée. Simultanément, les États-Unis renforçaient l'OTAN en lui attribuant, avec le consensus des alliés, le droit d'intervenir hors de son aire et en l'entendant à l'est dans les pays de l'ex-pacte de Varsovie. Entre-temps, cependant, l'économie états-unienne, tout en restant la première du monde, avait perdu du terrain en regard aussi de celle de l'Union européenne. Dans le monde arabe, on voyait des signes croissants d'intolérance à l'égard de la présence et de l'influence états-unienne, tandis qu'en Asie, le rapprochement russo-chinois présageait la possibilité d'une coalition en mesure de défier la suprématie USA. Exactement, dans ce moment critique, l'attaque du 11 septembre 2001 permettait aux États-Unis d'ouvrir une nouvelle phase stratégique au motif officiel d'affronter la menace mondiale du terrorisme. C'est une guerre de type nouveau, de caractère permanent, où il n'y a pas de frontières géographiques, menée contre un ennemi qui peut être identifié d'une fois sur l'autre, non seulement en un terroriste, mais dans n'importe qui, faisant obstacle aux intérêts états-uniens. L'image parfaite d'ennemi, interchangeable et durable. Le président Bush le définit comme un ennemi obscur qui se cache dans les coins sombres de la terre, d'où il émerge à l'improviste pour accomplir au grand jour des actions terrifiantes avec un très fort impact émotif sur l'opinion publique. Ainsi commence la guerre mondiale au terrorisme. En 2001, les États-Unis attaquent et occupent l'Afghanistan avec la participation en 2003 de l'OTAN. En 2003, ils attaquent et occupent l'Irak avec la participation d'alliés OTAN. En 2011, ils attaquent avec l'OTAN l'État libyen en le détruisant comme ils avaient déjà fait avec la Yougoslavie. Toujours en 2011, ils commencent la même opération en Syrie, bloquée 4 ans après par l'intervention russe en soutien à Damas. En 2014, avec le putsch de Place Maïdan, ils ouvrent en Ukraine un autre conflit armé. Dans la guerre mondiale au terrorisme, les États-Unis financent, arment et entraînent, avec l'aide en particulier de l'Arabie saoudite et d'autres monarchies du Golfe Persique, des mouvements terroristes en y exploitant d'une fois sur l'autre les rivalités. En Afghanistan, Moudjahidine et Taliban, en Libye, en Syrie, un ramassis armé de groupes jusque peu de temps avant taxés par Washington de terroristes, provenant d'Afghanistan, Bosnie, Tchétchénie et autres pays. En mai 2013, un mois après avoir fondé Daesh, le calife Ibrahim al-Badri rencontre en Syrie le sénateur américain John McCain, chef de file des républicains chargés par le démocrate Obama d'exécuter des opérations secrètes pour le compte du gouvernement. La guerre va être menée non seulement avec des forces aériennes, terrestres et navales, mais de plus en plus avec des forces spéciales et des drones killers. Leur utilisation offre l'avantage de ne pas requérir l'approbation du Congrès et de rester secrète, ne suscitant pas de réaction dans l'opinion publique. Les commandos des opérations spéciales souvent ne portent pas l'uniforme, mais se camouflent dans des vêtements locaux. Les assassinats et les tortures qu'ils accomplissent restent ainsi anonymes. La Team Six, élite des Navy Seals, est tellement secrète qu'officiellement on n'en admet même pas l'existence. Selon le récit officiel, c'est cette unité qui, en 2011, tue Osama Bin Laden, dont le présumé cadavre va être enseveli en mer. ou bien ait mis en scène l'exécution d'un Bin Laden déjà mort ou capturé. Pour la guerre non conventionnelle, le commandement américain pour les opérations spéciales emploie de plus en plus aussi des compagnies de contracteurs mercenaires. Dans l'ère du commandement central américain, comprenant le Moyen-Orient, les contracteurs du Pentagone sont plus de 150 000. S'y ajoutent ceux employés par d'autres départements et par les armées alliées. Ils sont fournis par un oligopole de grandes compagnies, structurées comme de véritables multinationales. Ainsi, la guerre disparaît de plus en plus de nos yeux, en nous mettant dans la condition de celui qui chemine sur un terrain apparemment sûr, ne sachant pas que sous ses pieds agissent les forces qui peuvent provoquer un tremblement de terre catastrophique.
Thank you.